Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Bienvenue sur Média, si vous venez de nous rejoindre, et c'est toujours bien sûr avec le même plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle escale, la culture au cœur de l'Afrique.
Média, Amna, l'Afrique en culture.
Et tout d'abord, nous irons à la rencontre du réalisateur Kim Chapiron qui revient en force avec le jeune imam. D'ailleurs, il est en tournée au Maroc pour présenter son film et on se fera un plaisir que d'aborder cette nouvelle œuvre avec lui. Sinon, on parlera musique avec la jeune chanteuse marocaine Karima Nouri. Elle sera avec nous pour nous parler de son univers pop, teinté de rock et influencé d'ailleurs par plusieurs styles musicaux. Elle nous parlera de ses influences, de son univers musical. Ça sera dans quelques minutes. Puis on parlera cinéma avec la restauration du film Classified People, un film de Yolande Zoberman, un documentaire unique, poignant, qui revient sur la ségrégation en Afrique du Sud durant le régime de l'apartheid. Ce moyen métrage unique, tranchant, met en lumière bien sûr la politique de ségrégation raciale instaurée pendant 43 ans. D'ailleurs, la réalisatrice est infiltrée en caméra cachée pour mettre la lumière sur les côtés les plus insoupçonnés de cette ségrégation. Comme promis, tout de suite, on va se faire un plaisir que de recevoir le réalisateur Kim Chapiron, qui a déjà réalisé notamment Shaitan, la crème de la crème, ou encore Dog Pound. Et cette fois-ci, il revient avec le jeune imam. D'ailleurs, il était en tournée au Maroc afin de présenter cette nouvelle œuvre qui fait beaucoup de bruit. Le jeune imam, c'est l'histoire de Ali, un adolescent qui a un peu du mal à rentrer dans le moule, et à l'âge de 14 ans, sa mère, qui l'élève seule d'ailleurs, ne trouve plus d'autre solution que de l'envoyer au village au Mali pour y terminer ses études. 10 ans plus tard, Ali revient en France et malgré les doutes de sa mère, prête à tout pour briller, il devient l'imam de la ville et c'est là que le film commence. On écoute d'ailleurs tout de suite Kim Chapiron.
C'est donc issu d'une histoire vraie. On s'est inspiré d'un jeune imam qui justement était la personne la plus aimée, la plus charismatique, éloquent, avec une puissance de récitation très très forte, qui du jour au lendemain s'est retrouvé à la position diamétralement opposée, c'est-à-dire la personne la plus haïe, pour une histoire d'arnaque au pèlerinage dans laquelle il s'est retrouvé dans cette situation inextricable. Nous avons parlé avec de nombreuses victimes. Ça arrive malheureusement beaucoup aussi en France. On a pu s'en rendre compte durant la prospection et les recherches, aussi bien dans le monde musulman que le pèlerinage à Lourdes, que dans d'autres religions. Et c'est des sujets très forts qui... quand on a commencé à l'aborder, nous a permis de raconter, je dirais, plein de facettes du monde dans lequel on vit aujourd'hui, de la complexité humaine qui mélange donc tradition et modernité. Et encore une fois, on s'est dit que si nous, on ne prenait pas le temps et on ne prenait pas justement la délicatesse, parce que c'est un sujet qu'on vit et c'est un sujet justement qu'on a envie de raconter d'une autre manière, quand on a commencé à observer toutes ces histoires réelles, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit qu'on allait emmener le réel dans le cinéma. Et la deuxième étape a bien évidemment été l'inverse, a été d'emmener le cinéma dans la réalité, parce que cette histoire est une histoire de fiction.
Et c'est vrai que, comme tu viens de le dire, Kim, je te tutoie, c'est qu'il y a beaucoup de sujets qui sont abordés dans ton film. Donc le jeune imam, on parle de l'amour d'une mère, on parle de cette arnaque, on parle de religion, on parle de la jeunesse. Et c'est vrai, est-ce que tu n'avais pas un peu peur de devoir tout aborder sans forcément diluer un des sujets? Comment tu t'y es pris?
Alors... c'est avant tout, pour ceux qui vont le découvrir, l'histoire d'une blessure, parce que c'est un fils qui va donc être obligé de partir au pays, au village, dans la madrasa du village de sa maman, parce que vous le verrez, après avoir fait, quelques bêtises que tous les enfants, sont malheureusement, surtout quand on a, je dirais, l'héritage un peu difficile de cette mère qui, tout ça, on s'imagine, bien sûr. Moi, j'aime beaucoup travailler avec le hors-champ. Elle est un peu dépassée par les événements. Son fils est quasiment incontrôlable et elle se dit, je vais le ramener au village, dans son village à elle, parce que lui n'a jamais mis les pieds là-bas. Et ce petit garçon là-bas va avoir une sorte, je dirais, de révélation mystique, spirituelle. Appelons-la comme on veut. Chacun est libre d'analyser ce moment comme il veut. Et ce petit garçon va se retrouver à avoir, je dirais, un don de la récitation coranique très puissant. Et quand il va revenir chez lui après en France, tout le monde va le regarder comme quelqu'un qui aurait le droit de prendre justement la place du chef spirituel de la communauté. Donc c'est pour ça que, je ne vais pas spoiler le film, mais c'est pour ça que mon jeune imam va arriver et sa communauté va carrément demander plus ou moins gentiment à l'ancien imam de partir pour laisser place à ce jeune imam qui va arriver avec tout son lot de je dirais, d'avantages qui est lié à la jeunesse, inventivité, créativité, courage, et à la fois tout aussi ce qu'on peut reprocher à la jeunesse, ses imprudences, son manque de connaissances. Et ce film parle de ça. C'est à ce moment-là, justement, pour parler d'un des thèmes qui m'est cher, que notre jeune imam va avoir l'idée de faire la khutba du vendredi en Instagram live. Donc, ramener le monde numérique qui est, je dirais, l'opposé de ce que pourrait être justement le rapport à la foi qu'on peut avoir. Et notre jeune imam va propulser cette toute petite mosquée dans un feu d'artifice gigantesque. Et c'est là qu'on s'interrogera aujourd'hui sur ce thème que je trouve assez incroyable, qui est comment le religieux, lui aussi, n'échappe pas aux mutations technologiques. Et aujourd'hui, on voit de nombreux imams, superstars, influenceurs arriver sur nos réseaux, sur nos téléphones. Et c'est le monde dans lequel on vit. Donc nous, traiter de ce sujet-là, bien évidemment, était un sujet fort et qu'on n'avait jamais vu au cinéma. Donc on s'est dit que c'était intéressant, bien sûr, de le raconter à notre manière à travers une trajectoire émotionnelle. Ce petit garçon qui a vécu cette blessure avec sa maman et toute cette trajectoire de guérison et de comment ils vont pouvoir se retrouver tous les deux. Et bien évidemment, on s'interrogera sur pourquoi ce jeune imam a provoqué tout ce feu d'artifice, vous le verrez dans le film. Était-ce pour lui? Était-ce pour sauver sa communauté? Était-ce pour avoir la reconnaissance de sa maman? Et c'est là qu'on rentre dans la complexité humaine, et le film traite avant tout de personnages.
Et c'est vrai que voilà, c'est un film dont on parle beaucoup en ce moment. D'ailleurs, tu es au Maroc, Kim. Et est-ce que le public, tu as eu la chance d'échanger avec le public marocain? Et est-ce qu'il y a une différence entre comment le public marocain perçoit ce film, le reçoit, et en France? Est-ce que tu vois des points en commun ou c'est vraiment très différent?
Oh, c'est très différent. J'ai beaucoup travaillé sur ce film avec cet écrivain islamologue que vous connaissez bien évidemment, Rachid Benzine, qui m'a aidé sur toutes les questions qui traitaient du religieux, car lui, bon, c'est quand même un domaine qu'il maîtrise. Et il m'a aussi aidé du côté narratif, dramaturgique du film. Et on a pu faire un débat croisé à Rabat. Et il faisait que de me dire, quand on faisait la tournée en France, tu verras comment au Maroc, en Algérie, en Tunisie, le rapport que va avoir tes spectateurs justement sur ce type de sujet est totalement différent que celui qu'on peut avoir en France. Et bien évidemment que le public est différent. En France, le rapport qu'on a à tout ça, bon, vous le voyez à travers, les médias, vous recevez des reportages peut-être un peu chocs, des unes de journaux, tout ça. Et nous, ce qu'on vit, bien évidemment, est totalement différent. De la même manière, que ce film a été une volonté de justement désamorcer tout ça, se retirer un peu de cette saturation médiatique qu'on peut avoir sur tous ces sujets, sur les quartiers populaires en France, surtout quand on traite de l'islam. Et Rachid Benzine me disait, tu verras, quand tu vas présenter tous ces personnages au Maroc, en Algérie, parce que je reviens juste d'Algérie aussi, tu ne vas pas rentrer dans les mêmes débats. Et c'est exactement ce que j'ai pu expérimenter. On ne va pas me traiter d'islamiste, on ne va pas me traiter de réalisateur au service d'une quelconque doctrine. C'est une trajectoire de personnage. Et donc, je dirais que déjà, moi, ça m'enlève un énorme poids quand je viens ici au Maroc, parce qu'à aucun moment, c'est des personnages qui sont beaucoup plus familiers pour les Marocains. Donc, je vais pouvoir parler de cinéma, je vais pouvoir parler voilà, de qu'est-ce que c'est que tous ces problèmes, justement, liés à l'immigration et comment nous, en France, à la fois, on a cette énorme chance d'être un carrefour de tellement de nationalités qui viennent du monde entier. Et c'est comme ça que moi, un jeune Français, je dirais, issu de l'immigration vietnamienne, se met à traiter de soninké musulman au sein d'une communauté. C'est-à-dire que c'est notre force à la France. Et je suis très, très fier de pouvoir l'exposer aujourd'hui au Maroc et de pouvoir parler de tout ça. Donc, la tournée vient juste de commencer. Elle va après partir au Canada, on va partir aux Antilles, on va terminer en Arabie Saoudite. Et montrer ce visage de la France, je dirais, pour moi, était très important.
En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Kim, pour nous parler de ce superbe film, donc Le Jeune Imam. Merci encore une fois de ta présence.
Merci pour l'invitation et je vous souhaite à ceux qui verront mon film beaucoup de joie parce que j'ai eu une très très grande joie à faire ce film et je continue durant cette grande tournée.
Merci beaucoup, Kim. Bon courage.
Kim Chapiron, qui était avec nous pour nous parler de son tout dernier film, Le Jeune Imam. Tout de suite et sans plus tarder avec notre coup de cœur cinéma. Classified People, un documentaire filmé clandestinement en Afrique du Sud durant le régime d'apartheid. Ce moyen-métrage unique, tranchant, met en lumière la politique de ségrégation raciale instaurée pendant 43 ans en Afrique du Sud et qui s'est infiltrée dans les recoins les plus insoupçonnés des existences. Classified People, ou la ségrégation raciale au sein des familles. On écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce.
Like you look like a lovely white person. There's not a person to say that you're not white.
Doris is 71. She's Robert's second wife. Robert is 91. In 1914, he joined the Colored Battalion and fought in France in the First World War.
Then apartheid came in. They were white and he was...
Classified the People de Yolande Zoberman, un documentaire unique, poignant. De 48 à 91, les citoyens sud-africains, je le rappelle, étaient rangés selon une classification raciale précise qui distinguait quatre catégories, les blancs, les indiens, les métis et les noirs. Dans Classified People, on suit Robert face caméra, ce nonagénaire qui raconte qu'à l'instauration de la loi, le tribunal administratif l'a jugé métis, tandis que sa femme et ses enfants étaient eh bien, considérés comme blanc. D'ailleurs, ils ont fini par le rejeter. Depuis 25 ans, l'homme vit dans une modeste maison d'un quartier pauvre et partage sa vie avec Doris, sa nouvelle femme, une femme noire de 70 ans, aimante et surtout témoin privilégié de l'humiliation et de la ségrégation vécue par son conjoint, qui, pour toute faute, a juste eu un jour le malheur de se porter volontaire pour rejoindre un régime métis durant la Première Guerre mondiale. Classified People, le premier documentaire de Yolande Zoberman, date de janvier 87 et le film a été nommé d'ailleurs aux Oscars 89 dans la catégorie meilleur court-métrage documentaire et il sort aujourd'hui dans une version restaurée. Le film sur Robert, donc ce métis de 91 ans et de Doris, sa femme noire de 71 ans. Le couple, je le rappelle, vit ensemble depuis 25 ans, ils sont mariés, ils symbolisent, selon toujours la réalisatrice Yolande Zoberman, l'absurdité de la classification raciale. Avant d'être métiste, Robert a été blanc, marié avec une femme blanche, avec qui il a eu des enfants blancs. Mais puisqu'il était, il s'était enrôlé dans les troupes métisses lors de la Première Guerre mondiale, l'ancien soldat a été reclassé métisse. Et du coup, sa femme et ses enfants l'ont rejeté et sa vie a totalement basculé. Et comme elle le dit dans sa note d'intention, la réalisatrice Yolande Zoberman, Classified People, c'est surtout un film d'amour. Robert et Doris incarnaient un désir plus grand que la peur, plus grand que la haine. Il y avait l'apartheid, dans son contraire, l'amour fou entre un homme et une femme, que j'ai trouvé la plus parfaite expression de son absurdité. Et après avoir parlé cinéma avec la restauration de ce superbe documentaire de Yolande Zoberman, Classified People, tout de suite, eh bien, on va se faire un plaisir que de recevoir Karima Nouri. C'est une jeune chanteuse, elle est marocaine. Elle s'est confiée à nous d'ailleurs sur son univers musical, ses influences, les thématiques qu'elle aime aborder, mais également la place de l'émotion lorsqu'elle compose, lorsqu'elle écrit et comment elle construit eh bien, sa musique autour de ce mot, l'émotion. On écoute tout de suite Karima Nouri.
En fait, depuis que j'étais toute petite, je mettais les oreillers, je commençais à chanter devant, comme si c'était des publics, des gens et tout. Mm-hmm. Et après, j'ai découvert l'instrument de la guitare. J'ai appris quand j'avais 13 ans. Ça fait 17 ans, à peu près.
Oui.
Et j'ai commencé, comme tous les jeunes de ma génération, avec Avril Lavigne, Evanescence. Mm-hmm. Après, j'ai compris que, en fait, les émotions et le feeling, je ne pouvais pas les avoir des chansons des autres. Donc, tu étais obligé de les créer toi-même. Et c'est là que j'ai commencé à composer des chansons qui me représentaient plus. Et voilà.
Et
avec le temps, on s'améliore.
On s'améliore et on avance et on devient plus grand, bien sûr. Est-ce que je voudrais savoir, Karima, c'est quels ont été les styles musicaux qui t'ont le plus influencé?
Les styles musicaux qui m'ont le plus influencé, c'est le rock, c'est la pop et de la country.
D'accord.
Mon style, en fait, qui est plus commercial, c'est la pop, avec un tout petit peu de rock. Juste pour garder ma personnalité et l'identité.
Et quelles sont les thématiques qui t'inspirent le plus, Karima, en tant que chanteuse?
En fait, au début, on écrit notre ressenti, mais avec le temps, tu t'adaptes et ça devient comme un boulot. Quand tu deviens plus professionnel, c'est, tu prends une émotion, tu peux aller chercher quelque part et tu la développes. En rajoutant un petit peu de tout ce qui est business, tout ce qui est commerce, parce qu'on devient plus professionnel, donc c'est plus le plaisir. Maintenant, c'est le boulot. Et voilà.
Et comment tu définirais
toi les émotions?
Et comment tu définirais toi ton univers musical?
Mon univers musical. Je le définis en tant que, voilà, je suis une artiste qui, en fait, je joue plus vers les émotions et vers le ressenti.
D'accord.
Que je suis une artiste qui écrit des chansons émotionnelles, mélancoliques, et ça sort toujours de mes ressentis. Je ne peux pas aller chercher les ressentis des autres.
Et c'est ça que je voulais savoir, en fait, c'est un peu toutes tes chansons, ton univers musical, c'est un peu autobiographique ou c'est juste une sorte de moyen pour exorciser tout ça? Ou est-ce que tu racontes vraiment ta vie, tout simplement, ce qui te fait vibrer, tes peines, tes joies?
C'est ça, en fait, c'est les émotions. Quand tu ressens un truc, chacun de nous a un moyen de faire ressortir ses émotions.
Bien sûr.
Il y a des gens qui préfèrent en parler, il y a des gens qui préfèrent aller faire de la boxe. Et voilà, mon idéal, c'est faire ressortir ça en musique. Et tu le sors pas en te disant, voilà, je vais sortir un single ou bien je vais sortir un... Ça sort tout seul. Après, tu te rends compte que voilà, c'est une chanson.
Et c'est vrai que voilà, c'est très fascinant le travail d'artiste, voilà comment une émotion, une idée finit par se matérialiser jusqu'à devenir eh bien, une œuvre d'art. Et c'est vrai que c'est assez intriguant comme processus. Est-ce que je voudrais savoir également, Karima, sur quoi tu travailles en ce moment? Quelle est un peu ton actualité?
Maintenant, je suis plus encadrée avec le producteur de IEM Musique, Isaac. Il m'encadre. Il est plus dans le domaine professionnel.
Oui.
Donc, il m'encadre et on essaye de s'adapter l'un à l'autre. Lui, il connaît le monde professionnel et moi, je connais le monde musical. Alors, on essaie de s'adapter tous les deux pour créer de nouvelles choses. Et là, tout de suite, on est en train de travailler sur un concert en février.
Oui.
Et on avait déjà fait des concerts à l'ENIM, l'INSEA, même à la Fondation Orient-Occident. Ça a eu un grand succès. On a décidé de faire un plus grand concert le 9 février.
Le 9 février, voilà. Et ça se passera où?
Le 9 février. Ça se passera à la salle Banini.
À Rabat.
À Rabat, oui. chacun de nous, chacun des musiciens aura sa touche. Mm-hmm. Comme ça, on laisse la place à la créativité de tout le monde.
Et on sera au rendez-vous. Donc, ça sera le 9 février.
Le 9 février.
Merci beaucoup, Karima, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup.
Merci
bonne journée. Au revoir. Et avant de nous quitter dans l'Afrique en culture, je vous propose notre coup de cœur musical de cette nouvelle rencontre culture et qui revient à Uncle Waffles avec Peacock en featuring avec Ice Beat Slide et Sbuda Maleder. Il faut dire que le boom de l'Ama Piano, mélange sud-africain de house, lounge, jazz et soul, est pour quelque chose puisque Uncle Waffles est totalement basé sur ce genre musical éclectique hybride dont le nom signifie piano dans la langue zoulou et qui est devenu viral notamment sur les réseaux sociaux. Les femmes DJ comme Daliwanga Fe Hello, Letty et Uncle Waffles, ils sont bien représentés. C'est sur ce morceau percussif que l'on a craqué avec ses accords jazzy et ses synthés aérés au possible qui laissent un peu planer un moment avant qu'on soit totalement matraqué par les basses très fortes, très grasses. C'est ça aussi le secret de la DJette. Donc Uncle Waffles, on écoute tout de suite. Question de se faire une idée de Peacock avec Ice Beat Slide et Sbuda Maleder et on se retrouve dans un instant. Waffles avec Ice Beat Slide et Sbuda Maleder pour Peacock, deuxième reprise d'un classique un peu vintage qui semble cette fois-ci Peacock du groupe Vendasplatch des années 80. Il faut dire que ce remix est un peu dermique qui nous colle à la peau et d'ailleurs c'est devenu rapidement un incontournable de l'année 2023 et on vient de découvrir et c'est un énorme coup de cœur. Et ça a été un peu pour Uncle Waffles bien la manière de marquer sa légitimité encore une fois s'il le fallait sur la scène électro-africaine. D'ailleurs et bien elle est toujours en tournée en Amérique du Nord et prépare la sortie d'un album plutôt pop cette fois-ci, Solace, que l'on attend avec impatience. Et on arrive d'ailleurs à la fin de l'Afrique en culture. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité et de votre écoute. Tout de suite, on écoute CK avec Noyé. Et on se retrouve très bientôt sur Média. N'oubliez pas, Podcast, l'Afrique en culture, c'est à retrouver toujours et encore en avant-première sur Média Podcast.
Just skin.